Vous écoutez France Culture. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les négociateurs de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne ont fini par s'entendre hier sur un projet d'accord de Brexit que la première ministre britannique Theresa May va devoir présenter aujourd'hui à ses ministres. En revanche, la question du soutien que la première ministre pourra rallier chez elle reste entière, en particulier chez les plus ardents partisans du Brexit au sein de son parti conservateur.
Le gouvernement italien laissera inchanger ses objectifs de déficit et de croissance pour son budget 2019, Thomas, et ce en dépit des demandes de révision de la Commission européenne.
En Israël, après la plus sévère confrontation depuis la guerre de 2014, un cessez-le-feu a été conclu hier soir indirectement entre l'État hébreu et le mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza. De quoi semer en revanche la discorde avec l'autorité palestinienne.
Et puis au Nicaragua, le président mène depuis plusieurs semaines une campagne de lynchage médiatique contre l'Église, accusée de fomenter un coup d'État.
En France, à trois jours des manifestations de grogne sociale sur le pouvoir d'achat, Édouard Philippe a dévoilé ce matin des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie dans le budget des ménages, qui n'a pas empêché par ailleurs le Premier ministre de mettre en garde les gilets jaunes qui appellent toujours au blocage des routes. Samedi prochain, preuve d'une certaine fébrilité, sinon fragilité de l'exécutif face à un mouvement sans leadership, symbole de cette défiance actuelle vis-à-vis à la fois des politiques et des syndicats. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Peut-on réanimer la vérité dans cette ère de post-vérité? Nous allons revenir sur les conséquences de ce mélange du vrai avec le faux sur notre monde commun avec la philosophe Myriam Revaud-Allonne et le journaliste Nicolas Domenac, directeur de la rédaction du nouveau magazine littéraire qui sort son dernier numéro sur les menteurs. Les menteurs contrôlent le monde.
Merci et à tout à l'heure. La thérapie de couple entre le Royaume-Uni et l'Union européenne serait-elle sur le point de porter enfin ses fruits après des mois de négociations tortueuses? Britanniques et Européens auraient trouvé un accord hier sur les détails de leur divorce. Alors le contenu de ce projet n'a pas été divulgué, mais à en croire la presse, il pourrait prendre la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni, ce qui supprimerait de facto les besoins de contrôle à la frontière. Seulement voilà, parce que l'adage pour le meilleur et sans le pire n'existe pas, il reste encore de très nombreux obstacles à lever avant de pouvoir véritablement parler de séparation à l'amiable. Et pourquoi? Non seulement parce que ce Brexit n'est pas le fruit d'un consentement mutuel entre Londres et Bruxelles, mais aussi parce qu'il est désormais à l'origine d'un divorce contentieux au sein même du Royaume-Uni. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Toute la difficulté aujourd'hui pour la première ministre britannique sera de convaincre tout à l'heure les ministres de son gouvernement de surmonter leur division, ce qui est loin d'être acquis.
Absolument. Jour du jugement pour Theresa May. Voilà le titre du Daily Mail qui appelle à bloquer le projet d'accord entre Londres et Bruxelles. La première ministre tente, en fait, depuis 2 ans de concilier toutes les opinions au sein du gouvernement. Mais cet après-midi, elle va trouver face à elle au moins 4 ministres qui menacent de démissionner, principalement parce qu'ils ne veulent pas rester, comme le prévoit le texte, dans une union douanière. Pour les convaincre, elle va mettre en avant ce qu'elle considère comme une réussite. L'accord, explique des proches de Downing Street, est une bonne solution temporaire, il permet d'éviter de reconstruire une frontière en Irlande et il donne surtout du temps, 2 ou 3 ans supplémentaires, pour négocier un nouvel accord économique avec Bruxelles.
Alors en admettant, Antoine, que Theresa May réussisse à convaincre ses ministres de l'opportunité de valider cet accord, il lui faudra ensuite convaincre la Chambre des communes de ratifier le texte. Et là encore, la tâche s'annonce compliquée, voire impossible, puisque quand les Brexiteurs crient à la trahison, les Remainers sont eux aussi furieux.
Totalement, oui. Chez les eurosceptiques, Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'a déjà dit, il votera contre le texte et il pourrait emmener derrière lui tous les partisans d'un Brexit dur, soit près d'une 40aine de députés. À l'opposé, les libéraux europhiles comme Anna Soubry, Dominic Grieve prédisent une catastrophe économique et ils réclament ouvertement un second référendum. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, les unionistes nord-irlandais menacent eux aussi de barrer la route à cet accord parce que la solution imaginée par les négociateurs oblige l'Irlande du Nord à se conformer aux réglementations européennes et les députés unionistes refusent d'avoir un statut différent du reste du pays. Donc au total, il pourrait manquer à Theresa May près de 80 voix au Parlement et c'est là aussi l'un des arguments des ministres qui s'opposent au texte aujourd'hui. En disant non d'emblée, en barrant la route à ce projet d'accord, ils espèrent surtout éviter un désastre au Parlement dans quelques semaines.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Et après le Brexit, se dirige-t-on vers un Italexit Brexit en refusant hier d'apporter des modifications significatives à son budget 2019. Rome a donc choisi la voie de la confrontation avec l'Union européenne, quitte à s'exposer du même coup à l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif. Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes en direct de Rome. Alors ce pari de la coalition italienne au pouvoir ne répond pas seulement au désir de croiser le fer avec Bruxelles. La Ligue d'extrême droite et le mouvement anti-système 5 étoiles estiment que ce budget anti-austérité va relancer la croissance exsangue, laquelle permettra à terme de réduire le déficit.
Oui, c'est le pari, effectivement, à travers d'abord deux mesures qui seront mises en place dès 2019. Le revenu minimum à 800 euros par mois pour les Italiens les plus pauvres, de quoi les aider à consommer et les aider à retrouver du travail sans plonger dans la misère. Et puis, il y a l'avancement de l'âge de départ à la retraite qui estime le gouvernement créera un appel d'air pour faire entrer les jeunes sur le marché du travail. Par ailleurs, les impôts devraient baisser pour les petites entreprises en priorité, là aussi pour leur redonner de l'air. Résultat, c'est un budget qui ne permet pas à court terme de baisser le déficit et la dette, mais qui, s'il produit les effets escomptés, doit relancer l'économie italienne. Une économie, vous l'avez dit, qui stagne, croissance entre 0,5 et 1,5% au cours des derniers trimestres. C'est la plus faible de la zone euro. À noter que le gouvernement italien a ajouté hier soir dans la lettre envoyée à Bruxelles une nouvelle garantie. Il privatisera du patrimoine d'État à hauteur de 17 milliards d'euros, des fonds qui seront utilisés pour réduire précisément la dette. Alors oui, c'est un pari et pour les institutions financières, FMI en tête, il ne sera pas gagnant. Quant à la Commission européenne, elle n'obtient pas ce qu'elle voulait et une procédure pour déficit excessif pourrait être ouverte dès le début 2019. Si elle va jusqu'à son terme, c'est-à-dire l'application d'amende, la note sera très salée pour l'Italie. Le gouvernement Ligue 5 étoiles compte passer entre les mailles du filet en modifiant les règles financières qui prévalent en Europe. Il mise sur une victoire aux élections européennes du mois de mai pour renverser les logiques en vigueur dans la zone euro.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rome. La décennie dorée de l'économie allemande s'est brutalement assombrie au troisième trimestre avec un recul de 0,2% du PIB. Un chiffre qui met fin aux 16 trimestres consécutifs de croissance enregistrés depuis début 2015. Alors ce recul était attendu mais pas dans de telles proportions. Et il vient surtout rappeler à quel point l'industrie automobile allemande est importante pour l'économie du pays. C'est une correspondance de Nathalie Versieux.
L'industrie automobile tousse et l'économie allemande s'enrhume. Avec le scandale des moteurs diesel truqués, le fleuron de l'économie germanique a connu, entre juillet et septembre, sa pire période depuis la crise de 1997, entraînant une chute des exportations. Par ailleurs, la sécheresse qui a paralysé la circulation sur le Rhin a handicapé le secteur de la chimie. La hausse du coût de l'énergie a également freiné l'économie germanique. Trois facteurs conjoncturels auxquels s'ajoute une faiblesse de fond avec un contexte international tendu. Du coup, les prévisions de croissance pour 2018 et 2019 sont revues à la baisse, 1,6 à 1,9% au lieu de 2,2% en 2017. Certes, pas de récession en vue pour l'Allemagne, mais les nuages s'amoncellent au-dessus de la première économie européenne.
Le Parlement sri-lankais a adopté aujourd'hui une motion de défiance contre le nouveau Premier ministre, un vote qui ne devrait pas manquer d'aggraver un peu plus encore la crise politique que traverse actuellement le pays. Le calme est revenu hier soir à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, où une médiation égyptienne a permis de suspendre les échanges de tirs au terme d'une journée de violence sans précédent depuis 4 ans. Une bonne nouvelle donc, sauf peut-être pour un certain Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne ne voit pas en effet d'un très bon œil le processus d'apaisement, même fragile, en cours depuis plusieurs semaines maintenant entre d'un côté le Hamas qui gouverne sans partage l'enclave palestinienne de Gaza et de l'autre les autorités israéliennes. Et pourquoi? Tout simplement parce que Mahmoud Abbas s'estime aujourd'hui court-circuité. C'est une correspondance à Jérusalem signée Étienne Monin.
Ce qui se passe depuis des semaines entre Gaza, Israël et la Cisjordanie, c'est une reconnaissance du pouvoir du Hamas au détriment de l'autorité palestinienne, censée pourtant assurer le fonctionnement financier et administratif de l'enclave. Pour éviter un naufrage humanitaire de Gaza, l'ONU et l'Égypte poussent depuis des mois pour un assouplissement du blocus. Le premier ministre israélien a fini par suivre cette stratégie. Récemment, de l'essence est entrée dans Gaza et vendredi dernier, 15 millions de dollars en liquide liquides ont été distribués à des fonctionnaires du Hamas après avoir passé la frontière israélienne dans 3 valises. Le bailleur de fonds de Gaza est devenu le Qatar. L'autorité palestinienne a été en quelque sorte court-circuitée dans cette opération. Le président Mahmoud Abbas le reproche d'ailleurs fortement à l'ONU, mais il a plié vis-à-vis des Égyptiens qui ont obtenu un assouplissement de sa position en évitant un blocage et des sanctions supplémentaires contre l'enclave. L'opération humanitaire était censée être un premier pas, en quelque sorte un ballon d'essai pour la confiance et la stabilisation de l'enclave. Elle aurait dû servir de marchepied pour d'autres mesures potentiellement liées au développement. Ce scénario aurait sans doute renforcé l'emprise du Hamas, donc la coupure avec l'autorité palestinienne et la Cisjordanie. Il est pour l'instant gelé. L'affrontement d'hier prouve qu'avec les factions armées à l'intérieur de Gaza et l'enjeu sécuritaire pour Israël, la stabilité à Gaza est pour l'instant impossible à obtenir.
Au Nicaragua, le président Daniel Ortega multiplie ces dernières semaines les accusations envers les représentants de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'il les juge responsables d'organiser un coup d'État à son encontre. Depuis, l'Église insiste donc sur la nécessité d'un dialogue entre le pouvoir et l'opposition, et c'est ainsi qu'aujourd'hui les évêques du Nicaragua ont prévu d'adresser une déclaration publique au sujet de la crise politique que traverse le pays. Emmanuel Stills s'est rendu à Managua dans une église qui a été le théâtre ces derniers temps de violences.
Le prêtre Raúl Zamora a décidé de conserver les traces de balles qui criblent les murs et les vitres de son église, le temple de la Divine Miséricorde à Managua. Les lieux ont été attaqués par les paramilitaires loyaux à Daniel Ortega en juillet dernier. Des étudiants s'y étaient réfugiés, 2 d'entre eux sont morts dans cet assaut. Aujourd'hui, cette église est devenue un lieu de mémoire pour beaucoup de Nicaraguayens qui dénoncent la répression du pouvoir. Le père Zamora déplore que le gouvernement traite les représentants de l'église en ennemis pour avoir défendu les manifestants.
Ils nous appellent terroristes parce que nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent. C'est notre mission. D'ailleurs, l'Église au Nicaragua était déjà aux côtés de ceux qui souffraient dans les années 80. À cette époque, c'était eux, les révolutionnaires, qui souffraient. Maintenant, ils sont au pouvoir et ils reproduisent les actes de la dictature de Somoza. Alors, nous prenons la défense de ceux qu'ils répriment. Mais l'Église n'a jamais voulu renverser le gouvernement.
Conspiration, tentative de coup d'État, les évêques nicaraguayens sont régulièrement accusés par le pouvoir de vouloir déstabiliser le pays. Eux plaident pour le retour au dialogue entre Daniel Ortega et l'opposition et ils demandent des élections anticipées, une proposition rejetée par le président.
Le mouvement des Gilets jaunes serait-il une nouvelle émanation de cette disruption, cher au président de la République? Comprenez de cette capacité à imaginer des solutions qui bousculent les schémas préétablis. À chaque jour qui passe, ce mouvement spontané et protéiforme semble répondre à l'incapacité des partis autant que des syndicats à porter leurs revendications sur la hausse des prix des carburants et plus largement sur un ensemble de frustrations liées à la situation à la fois économique et sociale. Quoi qu'il en soit, et pour tenter de répondre donc à cette colère et surtout éviter que la grogne ne se transforme à terme en réveil social, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce matin un renforcement des dispositifs pour aider les ménages à alléger leurs factures énergétiques. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors commençons tout d'abord par dresser la liste de ces principales aides annoncées par le gouvernement et de ce qui va changer donc l'an prochain.
Oui, pas question de baisser les taxes sur le carbone. Plus 6 centimes pour le diesel et plus 3 centimes pour l'essence dès le 1er janvier. Dans le même temps, Édouard Philippe annonce une surprime de 4000 euros à la conversion pour 20% des ménages les plus modestes pour l'achat d'un véhicule plus propre d'occasion. La prime classique de 2000 euros qui existe déjà pour l'achat d'un véhicule récent d'occasion reste maintenue. Au total, elles bénéficieront donc ces primes à non plus 500 000 mais 1 million de personnes d'ici la fin du quinquennat. Les gros rouleurs qui vont 60 à 70 km par jour et qui ont une petite cylindrée verront le dispositif des indemnités kilométriques élargi. Le Premier ministre y fait également un geste pour les foyers les plus modestes qui se chauffent au fioul. Le chèque énergie va passer de 150 à 200 euros et il concernera non plus 3,6 millions de personnes, mais 5,6 millions de personnes. Enfin, la prime à la conversion pour une nouvelle chaudière sera élargie avec un objectif, faire disparaître à terme les chaudières au fioul.
Alors, toutes ces mesures compensatrices, Hakim, c'est donc l'État et indirectement les contribuables qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, les payer de leur poche sans qu'aucune contrepartie ne soit réclamée par exemple, aux constructeurs automobiles.
Et oui, Emmanuel Macron, qui se veut pourtant le chantre de l'environnement, envoie là un très mauvais signal. Un geste qui vient sans doute du fameux dîner auquel le chef de l'État avait invité l'ensemble des constructeurs automobiles à la veille mondiale de l'auto à l'Élysée début octobre, en leur demandant, je cite, de mettre le paquet sur la voiture électrique et la voiture hybride. Et c'est ce qui explique donc, sans doute, le geste annoncé ce matin. Un cadeau très surprenant quand on sait qu'en Allemagne, premier marché automobile européen où le lobby des constructeurs est très important et où le diesel va être bientôt banni des centres-villes, et bien là, même là, les constructeurs français et étrangers ont dû mettre la main à la pâte face aux nouvelles normes environnementales imposées par Bruxelles. Sans compter qu'avec ces nouvelles normes, même les véhicules d'occasion récents que le gouvernement incite à acheter risquent de devenir très bientôt obsolètes. Enfin, idem pour le fuel où là aussi, Total, premier distributeur en France, se voit exonéré.
Merci Hakim Kasmi. Pour continuer d'évoquer ces mesures donc annoncées ce matin par le gouvernement, invité de ce journal, Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Êtes-vous satisfait tout simplement par ces mesures ?
Non. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il nous a fallu au moins 3 minutes pour expliquer l'intégralité du dispositif avec tous les effets de primes, surprimes, compensations, indemnités kilométriques, mais pas pour tout le monde, ceux qui ont des petites cylindrées et ceux qui font un certain nombre de kilomètres. On n'y comprend plus rien et toute cette usine à gaz qui est mise en place, c'est juste parce que le gouvernement n'a pas l'intelligence de revenir en arrière et de dire que cette taxe carbone qui tue les Français dans leur mobilité, eh bien, il faut juste revenir dessus. C'est aussi simple que ça. Pourquoi monter une usine à gaz de plus alors qu'on pourrait tout simplement dire, eh bien, écoutez, on s'est trompé, on va supprimer cette surtaxation sur les carburants.
Alors du coup, monsieur Chasseret, comment faire pour faire des véhicules plus propres sans pénaliser les ménages ?
La question déjà, c'est de savoir le temps qu'on met à renouveler un parc automobile. Il faut savoir qu'il faut environ 15 ans, on dit qu'il faut 15 ans pour qu'un parc automobile soit régénéré en intégralité. Parce que les vieux véhicules sortent chaque année à raison de 2 millions d'autos, et puis il y a 2 millions d'automobiles neuves qui rentrent sur le territoire français, puisqu'on les achète et on les consomme. Donc l'idée, c'est de laisser les Français rouler dans leur auto, parce que je vois pas ce qu'il y a d'écologie dans le fait de mettre à la casse une voiture qui fonctionne très bien. Arrêtons un
peu. Mais qui pollue plus.
Non, puis arrêtons systématiquement d'agiter un drapeau vert pour se donner l'air malin et plus intelligent. Le principe est simple. Aujourd'hui, on n'a pas une France qui dit « je veux polluer ». On a une France qui dit « je veux bosser, je veux aller au travail, je veux emmener mes gamins à l'école, je veux partir en week-end, j'ai besoin de mon auto ». La France, je vais vous donner un chiffre, et puis comme ça, on pourra plier le débat, parce que derrière, il n'y a pas de contre-argument. En Europe, la France est l'un des 3 pays qui surfiscalise le plus ses carburants. Les transporteurs routiers étrangers mettent sur leurs camions des réservoirs plus grands pour ne plus avoir à faire le plein d'essence en France parce que c'est trop cher. Donc vous voyez bien l'hérésie de ce système de surtaxation. Quand on surtaxe, au bout d'un moment, on finit par être vraiment dans le trop, et le trop plein, cette goutte d'essence qui fait déborder le réservoir, c'est ce qui est...
Alors juste, très rapidement, pardon, M. Chasseret, mais ne faut-il pas développer le covoiturage qui permet, parce qu'on le voit aujourd'hui, beaucoup de personnes sont seules dans leur voiture pour aller travailler, par exemple. Les trajets domicile-travail sont les plus importants.
Oui, et donc, c'est, bien sûr, ça c'est une super idée, développement de covoiturage, bien sûr, mais ce n'est pas une raison qui justifie la surfiscalisation des carburants. Bien sûr qu'il faut faire du covoiturage, bien sûr que c'est top qu'il y ait des Français qui décident de prendre le vélo ou d'autres moyens de locomotion, mais arrêtons ce syndrome français qui consiste à se lever le matin en se disant « je suis plus intelligent que les autres, j'ai inventé une idée géniale, ça s'appelle la taxe ». Est-ce que véritablement on a élu des gens à la tête du pouvoir pour qu'ils se mettent à pondre dans la nuit des idées de fiscalité ? Non. Donc aujourd'hui, arrêtons un petit peu, la surfiscalité, ça suffit. On avait tiré la sonnette d'alarme en septembre avec l'association 40 millions d'automobilistes. Vous vous souvenez de cette opération où on appelait les Français à envoyer leur ticket de carburant à Emmanuel Macron sans mettre de timbre ? Ça s'appelait coup de pompe, cette opération. Et bien derrière, le gouvernement n'a pas réagi. On se retrouve aujourd'hui avec un mouvement qui peut-être va devenir incontrôlable. Et avec des réponses du Premier ministre ce matin qui ne sont pas les réponses à la question posée. On vous dit, les prix des carburants sont trop chers, il répond, ok, changez de voiture.
On a bien compris, on terminera là-dessus. Merci Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, d'avoir été en direct avec nous. Et merci à Hakim Kasmi. Alors je le disais, tout en annonçant ces mesures ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe a tenu en même temps à mettre en garde les gilets jaunes qui ont appelé au blocage des routes samedi prochain. L'entrave à la circulation sera sanctionnée, a-t-il affirmé. Édouard Philippe, donc invité ce matin de nos confrères de RTL.
Je suis d'abord par nature pas inquiet, je suis attentif. Je suis attentif aux inquiétudes, à l'angoisse, parfois à la colère. Je la respecte, cette colère. En France, on a le droit de manifester. On a le droit d'être en désaccord. Mais on respecte tout le droit. Il y a un droit à manifester, mais il est organisé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Celui qui se dit, bah tiens, je vais bloquer ici, et ça va être formidable, ça va mettre le bololo partout, il sait que, ce faisant, il prend un risque s'il ne respecte pas la loi. Et moi, j'ai toujours cru, je crois toujours en matière politique, à la cohérence de ce qu'on fait, à la clarté et à la cohérence. Et puis, je crois aussi au résultat. Et je considère que les politiques qu'on mène, elles deviennent crédibles lorsqu'elles sont cohérentes et qu'elles produisent des résultats. Et c'est ce à quoi je m'applique avec l'ensemble du gouvernement, avec la majorité parlementaire,
vous
avec beaucoup de détermination.
Vous ne mettrez pas le frein
sur la réforme ? En aucune façon. Mais enfin, ce pays crève de ne pas avoir été réformé. Ce pays crève de politiques en godille, tranquille, exactement comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de candidats à l'élection présidentielle. Vous avez des formations politiques qui vous disent pendant la campagne présidentielle, il faut une taxe carbone, il faut une trajectoire carbone. Puis quand ça devient difficile, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, oh non, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Vous pensez que les Français qui les écoutent et qui les voient à 18 mois faire exactement le contraire de ce qu'ils ont dit, les prennent pour des gens crédibles? Non.
Édouard Philippe, droit dans ses bottes, en quelque sorte une marque d'autorité qui témoigne tout de même d'une certaine fébrilité de la part de l'exécutif et en particulier, Stéphane Robert, de sa difficulté aujourd'hui à appréhender un mouvement de contestation apolitique et qui a réussi à tirer profit de la défiance en réalité envers les partis et notamment le pouvoir en place.
Oui, l'exécutif, comme d'ailleurs tous les responsables de formations politiques, ne savent pas bien comment appréhender ce mouvement. Il est parti de rien, d'un ras-le-bol qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux et qui s'est cristallisé autour de ce hashtag sur Twitter, 17 novembre. Il n'est porté par aucune figure charismatique connue du grand public. Il revendique d'ailleurs le fait de ne pas être récupéré politiquement. Et il y a du coup une grande prudence des principaux leaders d'opinion avec ce mouvement, à droite comme à gauche. La plupart du temps, ils disent soutenir, mais sans appeler à manifester. Que ce soit Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, ils font savoir qu'ils participeront à titre individuel. Quant au patron du PS, Olivier Faure, lui explique ne pas savoir encore s'il ira manifester ou pas. Le gouvernement, quant à lui, ne sachant pas très bien à quoi s'en tenir, alterne entre compréhension et fermeté, entre la carotte et le bâton. Édouard Philippe a annoncé ce matin des mesures d'accompagnement pour les Français les plus modestes. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, mettait en garde contre les débordements et expliquait qu'il enverrait la troupe si des blocages s'organisaient sur les routes. Et l'exécutif est en plein désarroi parce qu'on ne sait pas bien ce que ça peut donner un mouvement comme celui-là. Il n'est pas contrôlé, maîtrisé par personne, ni parti politique, ni syndicat. Aucune structure, aucune formation ne semble en mesure de canaliser cette colère qui a manifestement besoin de s'exprimer. Et il y a là quelque chose d'assez inquiétant, car on voit bien que ce qu'on appelle traditionnellement les corps intermédiaires n'ont plus prise sur une partie de la population, sur une partie de la société. Et c'est ce que semble nous dire ce mouvement de colère des Gilets jaunes aujourd'hui, que ce qui structure notre société, ce qui nous permet de l'organiser, est en train de se désagréger, laissant place à des mouvements d'opinion qui s'expriment sans filtre, avec toute la dangerosité que ça peut comporter.
C'est aujourd'hui qu'étaient attendues les réquisitions dans le procès de Georges Tron, l'actuel maire en exercice de travail, et de son ex-adjointe à la culture, Brigitte Gruel, tous deux accusés de viol et agression sexuelle en réunion sur deux anciennes employées municipales. Florence Thurme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct aux assises de Bobigny. Et ce matin, donc, l'avocat général a requis des peines de prison fermes.
L'avocat général quitte son estrade et descend jusqu'à la barre des témoins pour prononcer son réquisitoire. C'est pourtant ce que va faire Frédéric Bernardo. Se placer sans aucune note face aux jurés, propos simples, souvent imagés, avec une introduction très pédagogique sur la notion clé d'intime conviction. La conviction, c'est l'épreuve, mais l'intime, ce sont vos capacités de jugement. la distinction contient toute la complexité de ce dossier. Vous pouvez, dit-il, condamner Georges Tron et Brigitte Bruel et reconnaître ces deux femmes comme victimes, ou bien vous les acquitterez et vous direz que ces deux-là sont des menteuses. Il s'approche des plaignantes. Je voudrais vous dire à quel point votre situation m'a touchée. Je suis heureux que vous soyez devant nous en vie. Mon intime conviction, poursuit l'avocat général, c'est que des faits de nature sexuelle ont bien eu lieu et qu'ils ont été imposés aux victimes. Frédéric Bernardeau revient sur ce qu'il a appelé à plusieurs reprises déjà le contexte sexualisé qui règne au sein de la mairie de Draveil. Se retrouver avec son pied dans les mains du maire, déjà, vous êtes prise au piège. Reste dans le débat juridique la question essentielle de l'absence de consentement, dont il propose de surmonter ainsi la difficulté. Une relation sexuelle ne sera pas consentie si la personne n'est pas en situation de liberté, et il faut être capable de démonter les mécanismes pervers à l'œuvre dans ce dossier. Monsieur Tron assène enfin Frédéric Bernardeau, c'est un professionnel de l'embrouille, l'image absolue d'un pervers narcissique, un Dracula qui vampirise ses victimes. Et il vient de requérir des peines d'emprisonnement ferme, 6 ans à l'encontre de Georges Tron, 4 ans pour Brigitte Bruel, ainsi que, et c'est loin d'être anodin, 5 ans d'inéligibilité et l'inscription au fichier des délinquants sexuels pour les deux accusés.
Merci Florence Sturm, en direct depuis les assises de Bobigny. J'ajoute que les plaidoiries de la défense se tiendront cet après-midi. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Gris mais doux sur l'ensemble du pays avec des températures généralement comprises entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.